France Inter, le 18-20.
Est-ce que c'est pas une histoire vieille comme le monde, banale en diable et tragiquement beauf? Est-ce que ça mériterait même qu'on en parle si ces comportements n'avaient eu des conséquences graves, des carrières brisées ou stoppées, des ambitions remisées? Cette affaire de Ligue du LOL, elle nous renvoie à ce qu'on avait déjà perçu après MeToo, qu'on a commencé à verbaliser. Elle nous renvoie à ce bon vieux mythe de la virilité, cette tarte à la crème qui consiste à dire que les hommes sont en crise parce que la domination, le contrôle auquel ils avaient l'habitude sont mis à mal par des femmes qui grignotent les espaces autrefois fois bien calé dans des genres prédéfinis. En même temps qu'on le dit, on se demande si c'est vraiment encore possible aujourd'hui. Mais regardez comme la journée s'emballe, les rédactions affolées d'avoir dénoncé des pratiques de harcèlement courantes qu'elles retrouvent chez elles aujourd'hui, mettent à pied à tour de bras. Alors de quoi on parle? C'est quoi cette masculinité toxique qui s'exprime dans le harcèlement? D'où sort ce sentiment de perte d'influence? C'est quoi ce fameux mythe donc de la virilité qui semble mis à mal? On en parle ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Je croyais qu'on avait Guy, mais on n'a pas Guy, donc visiblement, bon, c'est pas grave. Tiens, pour partager cette conversation avec nous aujourd'hui et pour aller jusqu'à 8h, Laure Salmona est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militante féministe, vous êtes cofondatrice du collectif féministe contre le cyberharcèlement. Vous êtes membre du bureau. Bonjour Raphaël Yogier. Est-ce que vous m'entendez?
Bonjour.
Voilà, vous êtes sociologue et philosophe,
oui,
professeur
bien.
Des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Vous avez notamment écrit « Descente au cœur du mal chez les liens qui libèrent » en 2018. Ça y est, on a retrouvé Guy, soyez le bienvenu, c'est vous qui démarrez ce téléphone sonne. Bonsoir Guy.
Bonsoir. Oh, ça va vite.
Ah oui.
Je peux dire un truc sur les journalistes, là, j'ai un truc d'immirage, vous avez fait un truc sur la maladie Lyme et vous n'avez pas parlé des charlatans, la maladie Lyme.
Ouais, mais la maladie Lyme, c'est pas le débat d'aujourd'hui,
non, mais
est-ce qu'on pourrait aller vers le débat du jour?
C'est franchement malheureux. Après, derrière, sur cette histoire de harcèlement, ma question c'est, comment on fait pour prévenir ça? On sait que globalement, dans les cours de récré, il y a des actes de harcèlement, que ça continue, que ça peut être très violent au niveau du collège où ça dérape, et ça continue globalement jusqu'à un moment donné où, dans la vie de jeune adulte, ça s'arrête. Alors, comme c'est masculinité, c'est essentiellement des garçons qui font ça, et donc comment fait-on pour que cette prévention, elle ait lieu dès le bac à sable, de faire percevoir ça aux parents, de faire percevoir ça aux adultes qui sont autour, savoir repérer quand il y a quelque chose qui se passe mal, puisque moi, je sais ce que c'est d'être un peu victime de cette position de « on se retrouve, c'est je veux être dans le groupe ». Et j'accepte les brimades, ou je refuse les brimades et je vais vers l'adulte et je me retrouve exclu du groupe. Qu'est-ce qu'on fait pour faire que cette rentrée-là? Et moi j'ai lu les témoignages des personnes qui étaient harcelées et c'est ce côté-là. C'est où je subis les brimades, je réussis à passer par-dessus et je rentre dans le groupe, ou c'est-à-dire que je peux exercer ma profession de jeune journaliste débutant, ou alors je fais éclater tout. Et en 2012, c'était quelque chose qui n'était pas sensible et donc qui n'était pas visible et pas entendable.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Guy. 2012 et même avant d'ailleurs, et la date peut-être a une certaine importance dans tout ça. Laure Salmona, ce que je trouve intéressant dans le témoignage de Guy et dans ce qu'il nous dit, on a effectivement un comportement de cours d'école dans ce qu'on a vu là, mais est-ce que vraiment c'est ça en fait? Est-ce que vraiment la problématique c'est celle-là en fait?
Non, je pense que la problématique, ça n'est pas du tout celle-là, que la problématique, c'est qu'on vit dans une société qui est traversée par des systèmes de domination, et que la prévention, en fait, ça serait de lutter contre les inégalités, et ça serait de lutter pour plus d'égalité, et aussi de faire en sorte que les personnes qui permettent de faire tenir ces structures cessent, en fait, de les faire tenir. Si vous voulez, ça tient parce que les gens sont fascinés, en fait, par une sorte d'idéal de puissance et vont juste ne pas dénoncer ces violences en se disant, si je les dénonce, je vais peut-être perdre des opportunités, je vais peut-être perdre une occasion d'être cooptée dans mon travail ou une occasion d'être avec les leaders de la bande à l'école. Et donc, c'est vraiment contre les dominations qu'il faut lutter.
On met toujours, je qualifiais ça de tarte à la crème tout à l'heure dans l'introduction, on parle toujours de cette fameuse crise de la masculinité. C'est des choses qu'on a mâchées, remâchées au moment de MeToo. Est-ce que c'est vraiment une tarte à la crème totale, en fait, ou est-ce qu'effectivement ça existe, en fait, cette idée idée que certains mettent en avant, que plus les femmes avancent socialement, plus les hommes se sentent dépossédés et donc accentuent cette espèce de mode de harcèlement qui peut être le comportement de certains. Ça existe ça ou c'est une tarte à la crème, sérieusement ?
C'est une vieille ancienne, ça a toujours existé en fait. Dès l'Antiquité, il y avait ce type de discours et ce discours est une idéologie qui en fait vise à défendre les privilèges des hommes, de la classe des hommes. L'idée c'est que effectivement, dès que les femmes vont tenter de s'émanciper, de gagner de nouveaux droits, eh bien, il va y avoir une sorte de retour de bâton, hein, ce qu'on appelle le backlash en anglais, qui va être de brandir cette crise de la masculinité et de dire « Ah, c'est terrible, depuis que les femmes tentent ou même auraient pris le pouvoir, rien ne va plus pour nous les hommes. »
Raphaël Yogier, dans l'état d'esprit, dans l'esprit de ce que vient de dire Laure Salmona, il y a cette question de Marie de Bordeaux qui nous demande ce qui peut se passer dans la tête des trentenaires, en fait, parce que théoriquement, quand on est trentenaire, on a appris un certain nombre de choses, on a été élevé dans autre chose que une espèce de domination masculine qu'on tiendrait de nos grands-pères et de nos pères.
Enfin, théoriquement, parce que on est en période de crise, c'est-à-dire en période de transition, et donc on a à la fois un développement d'une nouvelle reconnaissance de l'égalité des femmes jusque dans les cours d'école, on parle de fluidité genrée, reconnaissance des choix sexuels, etc. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de développement de la pornographie qui est par excellence un rapport aux femmes, un rapport de domination. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette affaire, tout de même, c'est que elle s'attaque directement au cœur du problème, au cœur de ce qui jusque-là pouvait aller de soi, mais qui ne va plus de soi. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'égalité en droit que tout le monde reconnaît aujourd'hui entre les hommes et les femmes, même si elle n'est pas complètement réelle. C'est pas seulement au cercle un peu plus intérieur l'égalité économique, c'est-à-dire l'application des droits. Aujourd'hui, les femmes se battent encore pour avoir des salaires égaux. C'est plus profond, ce qui a justifié tout ça dans toute l'histoire de nos civilisations, c'est le fantasme lui-même de la femme comme étant passive face à l'homme actif. Et vous remarquerez que cette espèce de raillerie en bande, de groupes d'hommes vis-à-vis des femmes, c'est tout le temps pour se moquer du fait qu'une femme, lorsqu'elle cherche à prendre une position dans la société, par exemple, ne serait-ce que quand elle parle dans un repas, première prise de position, on va dire qu'elle est trop bavarde, on va se moquer d'elle, on se moque de sa volonté de ne pas être la femme passive, l'éternel féminin, la femme passive en retrait, mais d'être active, et ça devient drôle. Et donc toutes les femmes qui ont été attaquées par la ligue, cette espèce de ligue, sont des femmes qui sont justement actives, donc ridicules parce qu'actives, et raillées par des hommes. Et raillées par des hommes qui, en plus, dans leur écrasante majorité, se veulent progressistes, comme Weinstein lui-même, c'est-à-dire qui se veulent en théorie pour l'égalité, pour tout cela, mais qui n'ont pas réussi à régler le problème avec leurs fantasmes les plus profonds. Donc, pour répondre aussi à votre premier auditeur, je pense qu'on ne pourra pas régler le problème par le haut, ne serait-ce que par des lois, par des impositions, par de la contrainte extérieure. C'est par l'éducation, et pas n'importe quelle éducation, c'est l'éducation du regard des hommes sur le corps des femmes. De pas prendre le corps des femmes comme un objet de jouissance, parce que c'est de cela qu'ensuite, progressivement, se déduit l'idée que les femmes étant passives, même dans le sexe, elles sont passives ensuite dans la société, donc elles n'ont pas de droits actifs, de droits civils, droits de propriété, puis même de droits politiques. Donc c'est le cœur, on est vraiment au cœur du problème, là, en réalité.
Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue Catherine, on vous écoute.
Oui, merci. Ben, je voulais juste rappeler que nous sommes une espèce animale et qu'en vision un petit peu anthropologique, on est de fait en patriarcat, c'est-à-dire en totalitarisme de genre, et qu'il y a actuellement, à part quelques pays scandinave, très peu de cas de parité où le contre-pouvoir s'exerce au plan anthropologique. Et évidemment, on a un patriarcat qui se sert de tout, du biotope, des petits, des grands, des
femmes.
Mais
attendez Catherine, parce que moi je trouve ça intéressant ce que vous dites, ça veut dire que vous l'avez intégré. Si vous l'avez intégré, pardon, on n'est pas sorti des ronces.
Ça fait très longtemps. Comment ça j'ai intégré quoi?
Ça veut dire que vous avez intégré le fait qu'on vivait dans une société purement patriarcale. Donc ça veut dire qu'on ne change pas ce terrain-là en fait, du tout.
Oui, il n'y a qu'une solution. pour moi, c'est la seule lutte et l'unique lutte fondamentale, c'est la parité le plus vite possible partout, parce qu'on, que ce soit Bouteflika, que ce soit Poutine, que ce soit Trump, enfin on a les exemples, le CAC 40, Davos, enfin on est en patriarcat, c'est comme ça, mais ça commence à urger au niveau du biotope, on va dire, et donc il y a une dimension bien plus importante que la justice des hommes, il y a aussi le futur de notre planète à tous, qui effectivement a l'air de pâtir aussi du patriarcat. On est quand même devant un constat. Alors, on ne le fait pas parce qu'on est justement en patriarcat et qu'il y a une distorsion des analyses. On est tous conditionnés à ne pas voir, mais en zoom arrière, ça semble être bien ça, quoi.
Merci Catherine, merci de votre témoignage. Laure Salmona, je disais à Catherine qu'elle l'avait intégré, le fait qu'on puisse dire, bah, de toute façon, comment voulez-vous qu'on y échappe puisqu'on vit dans une société purement patriarcale? Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce genre de discours-là?
Je suis totalement d'accord et je trouve même que c'est très intéressant si on met ça en regard avec la Ligue du LOL, parce que c'était justement aussi ce harcèlement des femmes, mais aussi des personnes non blanches, mm-hmm. des personnes lesbiennes, bi, mm-hmm. trans, homosexuelles, etc. Il n'était pas anodin. C'était aussi faire en sorte que ces personnes-là ne puissent pas accéder à des postes dans des rédactions, et c'est ce qui s'est passé en fait, puisque tous ces hommes de la Ligue du LOL considérés comme j'ai lu ça, les esprits les plus brillants de leur époque, qui se sont cooptés dans les rédactions, qui se sont les uns les autres refilés des postes, des papiers, etc., ils ont en fait pris la place de toutes ces personnes qu'ils ont cyberharcelées. Et du coup, dans les rédactions, comme ils ont créé un climat menaçant finalement pour les personnes vulnérables, pour les femmes, pour les personnes non blanches, etc., eh bien, il n'y a pas beaucoup de ces personnes dans les rédactions. Il n'y a donc pas beaucoup de ces personnes pour écrire des papiers avec des angles de vue de lutte contre les dominations. Et donc, ça participe à maintenir les systèmes de domination, à maintenir le système patriarcal.
Mais est-ce que la parité à laquelle faisait allusion Catherine, est-ce que l'une des solutions, c'est vraiment celle-là? Est-ce que c'est la clé, ça, plus de parité ou pas?
Ah oui, tout à fait, c'est la clé. Et il faut aussi réfléchir. On a tendance à toujours, enfin les gens roulent des gros yeux quand on leur dit oui, enfin les hommes qui sont à tous ces postes haut placés, peut-être qu'en fait ils le méritent pas vraiment. Peut-être qu'ils ont volé la place d'une femme, volé la place d'une personne non blanche, volé la place d'une personne homosexuelle. Les gens roulent des gros yeux, mais c'est sûrement vrai.
Raphaël Yogier, vous vouliez intervenir.
Oui, moi je veux dire, sur la question de la parité, je ne pense pas que ce soit la clé. Je veux dire, je pense qu'elle est nécessaire, et qui la parité évidemment, mais je crois que c'est l'effet d'une cause plus profonde, et la cause la plus profonde, c'est la vision que les hommes ont, c'est-à-dire le fantasme masculin lorsqu'il construit justement le mythe de sa virilité sur le dos des femmes. C'est-à-dire justement, là on l'a vu dans la Ligue de LOL, c'est que l'homme viril est moqueur. Il y a un certain nombre de journalistes qui ont participé à cette ligue et qui disait, mais non, c'était seulement de la rigolade, on pensait pas que ça irait jusque là, etc., etc. Mais il est moqueur face à des femmes qui se veulent être actives. Il y a une tentative de soumission et de réduction des femmes à la passivité. J'ai trouvé intéressant aussi votre auditrice, parce que elle nous dit, elle a l'air de mêler deux registres. En fait, en fait, c'est logique, je trouve. Elle parle évidemment de la parité, de l'égalité homme-femme, etc. Et puis après, elle dit la planète n'attend pas. Maintenant, il faut une autre politique, etc. Ça a l'air d'être deux sujets, mais en fait, non. C'est-à-dire que du point de vue politique, le rapport que les hommes ont au corps des femmes, comment ils construisent leur virilité à travers leur vision du corps des femmes, c'est-à-dire par pénétration, soumission, appropriation, dans cette espèce de violence-là qui est au cœur même de l'enfantasme et qui est tout le déploiement de la pornographie, eh bien ça aboutit ensuite à créer une politique, un fonctionnement même institutionnel et politique pornographique. Moi je pense que la politique de Trump est une politique pornographique vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de toute une série de choses. Donc l'air de rien, en pointant aujourd'hui ce point central de l'humour moqueur de l'homme viril vis-à-vis du corps des femmes, etc., eh bien, on pointe quelque chose de fondamental, d'autant plus que cela touche des hommes qui se pensaient au-delà de ça. C'est ce que j'appelle le paradigme de Bertrand Cantat. C'est-à-dire des gens qui sont progressistes, probablement pour l'égalité homme-femme officiellement, à tous les niveaux, mais qui n'ont pas réglé leur propre fantasme. qu'ils n'ont pas réglé. Et Weinstein, lui aussi, était progressiste, il finançait la campagne d'Obama, etc. Ça veut dire que la manière même de faire l'amour, de fantasmer, de regarder le corps des femmes, est politique. Et il est temps qu'on s'en rende compte.
Laure Salmona, il y a Gilles sur franceinter.fr qui nous dit « Le harcèlement anonyme derrière un écran d'ordinateur, je ne vois pas où est la virilité ». Là où c'est très intéressant, c'est que c'est pas anonyme cette affaire-là, ce qui est encore quelque chose de très différent de ce que peut être le harcèlement avec un nom totalement anonyme sur Twitter. Là non, c'est visage découvert en quelque sorte. Hein.
Oui, ça en dit long sur l'impunité en fait ressentie par ces harceleurs. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que disait Raphaël Liogier, c'est que il parle de moquerie. Enfin, ça va plus loin que ça. Quand on lit les témoignages des victimes, c'était clairement des violences graves, du cyberharcèlement grave, et il y avait cette volonté de détruire et de nuire. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et d'ailleurs, ils ont construit leur carrière grâce à ça aussi. C'était une stratégie finalement de carrière d'humilier les autres pour se construire un discours qui pouvait passer pour cool auprès d'une cour, d'une petite cour qui les admirait à une époque. Et donc ça a servi leur carrière en fait.
Vous parlez de petites cours, il y avait aussi à cette époque-là, c'est moins le cas aujourd'hui, une espèce d'entre-soi, encore plus entre-soi, encore sur Twitter que Twitter ne l'est aujourd'hui. Est-ce que ce terrain-là joue aussi? Est-ce qu'au fond, c'était un terrain de jeu très masculin, ces réseaux sociaux à cette époque-là, et qu'il fallait pas en plus que les femmes ou les filles se mêlent de ces conversations-là? Est-ce qu'il y a de ça également?
Alors, malheureusement, je pense que ça n'est pas l'apanage des réseaux sociaux. C'est que, en général, la plupart des corps de métier sont des terrains très masculins, avec ce qu'on pourrait appeler des boys clubs, qui se forment, qui se cooptent et qui essayent d'exclure les femmes et les autres personnes minorées. Internet, à ce moment-là, peut-être, pouvait donner l'illusion qu'on était dans un entre-soi, effectivement, qu'on était dans ce qui, aujourd'hui, relèverait du groupe Facebook ou de la conversation en message privé Twitter. Mais, en même temps, aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, tout est vraiment public et on le ressent. Et l'impunité n'a pas changé. Donc, le problème, ça n'est pas Internet. Le problème, c'est l'impunité qu'ont ces hommes. Et on voit aussi dans leurs excuses ou même dans ce qu'ils pouvaient dire quand on les interrogeait avant que l'affaire sorte sur les discours de haine sur Internet, leur morgue élitiste. On entendait Alexandre Hervaux dire « Oui, Twitter, c'était quand même mieux avant que
quand on
tout
était
le
entre
peuple,
nous, bah exactement,
voilà,
quand
que
on
tout
était
le
entre
peuple
nous.
Arrive. »
Il y a cette question de Julien Dancy qui nous parle de la meute aussi. Est-ce qu'on se sent protégé dans ces cas-là, effectivement, par le groupe, par la meute, par ce boys band dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, forcément, parce que on vient de le voir. S'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Donc l'idée, c'est de se serrer les coudes, c'est de construire des stratégies d'entraide.
C'est ce qu'on voit d'ailleurs là dans le mode d'excuse, qui est le même mode pour chacun, y compris la même typographie et tout pareil, en fait. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non?
Exactement, et on retrouve ça chez tous les harceleurs, agresseurs, violeurs. C'est toujours pareil, c'est une sorte de front d'entraide et de fabrique de l'impunité des auteurs de violences.
Bonsoir Sylvain.
Ah bonsoir.
Soyez le bienvenu Sylvain, on vous écoute.
Eh bien bonsoir. Donc moi je voulais juste faire un commentaire d'abord général qui est que je suis très gêné quand on parle de masculinité de façon générique, des hommes comme si c'était un espèce de lot uniforme. Désolé, mais je pense qu'on est un certain nombre à ne pas être comme ça. Bon, maintenant, juste pour déplacer
vous,
un
mais
petit
Sylvain,
peu...
pour que les choses soient très claires, on vous croit évidemment sur parole. Il n'y a pas de souci.
Non, mais peu importe. Mais c'est surtout, je voulais juste déplacer un petit peu le débat dans le sens où moi j'aurais une question. C'est celle où on fait le procès des hommes, de certains hommes, etc. Et là, d'accord. Mais est-ce que l'objet qui fait le thème de l'émission de ce soir est bien choisi, dans le sens où il me semble qu'on a affaire à un groupe de plutôt jeunes gens qui se sont montés le bourrichon, comme on dit chez moi, qui se sont excités, auto-excités tout seuls avec Twitter, etc. Et ce sont des gens qui sont des journalistes, donc des gens plutôt éduqués, d'un haut niveau, et qui relèvent en plus de médias de type Libération, un Recul type qui, pour moi, à titre personnel, étaient des médias très respectables et que j'aimais beaucoup. Et je parle au passé parce que cette affaire me choque énormément. Et je me demande si c'est pas plutôt... Alors, on peut la faire aussi, le procès d'une certaine masculinité, un procès de son expression et des hommes en général ou en particulier, peu importe, mais c'est aussi peut-être le procès d'un certain média, dans les milieux peut-être parisiens, excusez-moi de le dire comme
non,
ça,
non,
mais qui se sentent une certaine immunité, notamment dans les grandes époques de Twitter où en gros on faisait n'importe quoi en toute anonymité et on pouvait insulter et traîner dans la boue un peu qui on voulait. Et je crois que c'est aussi plutôt, à mon sens, le procès de cela, de plutôt que de la masculinité des hommes. Je veux pas écarter ce débat-là, mais pour moi, l'objet initial qui cristallise l'émission de ce soir, c'est aussi d'une certaine forme de média. Et pour moi, je tombe de haut, les bras m'en tombent, patatras, parce que ce sont des médias en qui j'avais grande confiance et qui relayent des idées qui sont plutôt les miennes. Et là, tout d'un coup, patatras, ça vient de ce monde-là. Et cet entre-soi, maintenant, me gêne beaucoup. Et je suis très choqué, voilà.
Merci beaucoup pour cette remarque, Sylvain. Et vous avez raison, Raphaël Yogier, il y a effectivement le côté boys band dont on parlait à l'instant, et puis il y a ce côté bobo parisien, très parisien, média, donc quelque chose de normalement très ouvert, très progressiste. C'est ce qui rend peut-être cette histoire un peu plus choquante, comme le dit Sylvain, ou pas?
À la fois choquante et intéressante, parce que c'est la question de la honte, là, en l'occurrence. C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit dans votre débat, ça a été fait sans honte, quasiment à visage découvert, et d'ailleurs, l'objet, c'était de faire honte à l'autre, à la femme qui est en face. C'est ça qui est... Et je vous rappelle d'ailleurs que, avec l'affaire Weinstein lui-même n'avait pas honte avant que l'affaire éclate vraiment. Il y a une journaliste qui l'a interviewé trois semaines avant que l'affaire éclate vraiment au grand jour et sur des bruits qui commençaient à se développer. Et lui, sur NPR, qui est quand même le France Inter américain, disait ouvertement que, sans honte, il exprimait même son sentiment de virilité que toutes ces femmes qui ont couché avec lui, il laissait entendre qu'il les avait pas forcées, mais plus ou moins, enfin, il avait pas honte. Hein. Et je voudrais dire aussi quelque chose en ce qui concerne votre auditeur sur la question de la masculinité générique, parce que j'ai entendu ça énormément de fois depuis la sortie de mon livre. La question n'est pas la question de la culpabilité individuelle, il faut sortir de cela. C'est pas la question de la culpabilité individuelle. Cette culpabilité, si elle existe, il y a des tribunaux pour ça, puis il y a des gens qui vont aller en prison, qui vont être... Là, il y a à l'évidence un certain nombre d'individus qui ont dépassé les bornes du point de vue même pénal, je pense. Probablement, on verra par la suite. Bon, c'est pas la question de la culpabilité individuelle. Ce qui est important, c'est la question de la responsabilité. Et cette responsabilité, elle est collective. La masculinité, c'est un construit, c'est un jeu de domination qui a construit l'image fantasmée de la passivité des femmes par opposition à l'homme qui serait actif. Et ça, c'est depuis, je veux dire, l'aube du néolithique, comme l'ont montré Françoise Héritier et toute une série d'autres anthropologues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça coince. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à mesure qu'on touche ce qui a l'air d'être plus un détail, plus infime, mais qui est plus fondamental en réalité. Par exemple, je voulais pas tout à l'heure remettre en cause le fait qu'il y a des vies qui ont été balayées dans le cadre de cette ligue lol. Je voulais dire que ça commençait avec l'humour, et puis après ça dégénérait effectivement sur des choses beaucoup plus graves. Ça commençait avec l'humour, c'est-à-dire c'est ça le détonateur en quelque sorte, et ça se justifie ensuite pour être non honteux au nom de l'humour. Ça, c'est quand même très intéressant, parce qu'on en revenait à cet homme viril qui est moqueur, qui rabaisse les femmes, etc. Tout ce processus-là, tout ça, c'est ça, je pense, qu'il faut détricoter. Et il faut le détricoter, y compris chez les gens qui se pensent eux-mêmes comme étant les plus progressistes. C'est pour ça que c'est intéressant que ça arrive chez aux journalistes des Inrecuptibles, de Libération et autres.
Laure Salmona, sur le microcosme, effectivement, ce contexte-là. Et je voudrais revenir aussi sur ce que disait à l'instant Raphaël Yogier sur la défense de l'humour. Et en même temps, j'y mets 23 000 guillemets, y a-t-il une autre défense quand on a besoin, là, de le dire immédiatement sur Twitter pour des gens comme cela?
En tout cas, moi, je fais clairement une différence entre l'humour et le discours de haine. Hein. En France, en tout cas, le racisme, le sexisme, sont des délits.
Évidemment, non. Dans le mode de défense immédiat, en fait. Ah oui, mais c'était pour rire.
Alors, c'est assez intéressant parce que quand on regarde effectivement que ça soit les excuses qu'eux-mêmes font, que les membres de la Ligue du LOL ont pu faire sur Internet, ou les personnes qui les ont excusés, qui ont minoré leurs agissements, et on retrouve toujours le côté effectivement ils étaient immatures, c'était c'était des blagues, des erreurs de jeunesse, et c'est vrai qu'en fait c'est toutes ces personnes avaient une vingtaine d'années, donc c'était des adultes, et dans la façon de se dédouaner, ça revient souvent en fait, et c'est vrai que il y a quelque chose que j'ai remarqué quand les hommes parlent, les hommes en général, quand ils disent souvent quand j'étais môme, et quand ils disent quand j'étais môme, en fait ils avaient 20 ans. Moi, quand je dis quand j'étais môme, je parle du moment où j'avais 8 ans. Et donc, on voit bien qu'il y a une construction, une socialisation qui est très différente entre femmes et hommes sur la responsabilité qu'on peut avoir de ces actes pour les femmes, et sûrement aussi pour toutes les personnes qui peuvent être minorées. Je pense par exemple aux hommes non blancs. La responsabilité des actes, elle peut venir très très tôt. Mais les hommes qui ont beaucoup de privilèges, comme ceux dont on parle, après des privilèges de classe, des privilèges blancs, des privilèges de genre et d'hétérosexualité. Tous ces hommes-là, en fait, on leur a jamais demandé des comptes, on leur a jamais demandé d'être responsables réellement de leur acte. Et c'est vrai que le coût social, quand les choses sont dénoncées, il est beaucoup plus fort. Pour les personnes qui sont les moins en position de domination. Et du coup, ça me fait penser aussi à la question sur les masculinités. Effectivement, il y a plusieurs masculinités. Et la masculinité, elle se construit contre ce qu'on appelle le féminin, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix montrer qu'on s'éloigne le plus possible de tous les comportements identifiés comme féminins. Mais du coup, il y a plein d'hommes qui en pâtissent aussi. Et c'est vrai que, par exemple, les hommes homosexuels et encore les hommes non blancs, hein, le nazisme, par exemple, enfin l'antisémitisme en général, a beaucoup théorisé sur le fait que les juifs, les hommes juifs, étaient très efféminés. Donc il y a tout un coup en fait de cette masculinité, et l'idéologie viriliste, eh bien, elle fait aussi payer un prix à tous les hommes qui ne veulent pas rentrer dans le rang. Et on voit bien que la Ligue du LOL n'a pas que harcelé des femmes. La Ligue du LOL a aussi harcelé des hommes, des hommes qui ne correspondaient pas à ces idéaux, à cet idéal du virilisme. Et ils leur ont fait payer le fait d'être en fait des traîtres à leur classe.
Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir.
Si j'étais comme vous avec deux petits garçons, je serais effrayée par ce que j'entends en fait.
Pas du tout, non. Moi, c'est pour ça que je vous appelle, c'est parce que je suis optimiste et très confiante. Je voulais juste contribuer au débat en apportant peut-être une petite pierre à l'édifice. Allez-y. C'est que je pense que une des clés, alors c'est certainement pas la seule, mais c'est aussi d'intervenir dès la petite enfance. Moi, je suis maman de deux petits garçons, un qui a 8 ans et demi et un autre de 7 ans. Et mais au quotidien, depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils savent parler, en fait, on les corrige. Alors, leur papa également, c'est-à-dire, plutôt que de dire le pilote d'avion, eh bien, on leur montre que parfois, le pilote, ça peut être une femme. La personne qui conduit une moto, alors on parle de ça parce qu'ils sont jeunes, évidemment, mais en tous les cas, leur montrer que une femme est aussi capable qu'un homme de faire la même chose. Et je me rends compte que petit à petit, ben, ça rentre un petit peu dans leur inconscient. Alors, il faut toujours corriger, il faut toujours être vigilant. Mais si on s'occupe de ça dès qu'ils sont tout petits, eh bien, je pense que au fur et à mesure, il y a une espèce en tout cas, ils voient bien que les hommes et les femmes peuvent être considérés et peuvent faire les mêmes choses. Et je pense que ça, c'est très important, surtout quand on est un petit garçon.
Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphanie. Raphaël Liogier, Stéphanie, évidemment, a raison. Mais moi, je pensais que cette génération des trentenaires dont on parle, ce discours-là, elle l'avait intégré parce que leurs mères leur ont déjà tenu ce discours-là. C'est bien ça qui peut-être est inquiétant, en fait, parce qu'ils l'ont entendu, ce discours-là, et cette égalité, en soi, ils la connaissent, en réalité.
C'est-à-dire que c'est ce que j'essayais de vous dire dès le début, c'est que dans les cours d'école, puisqu'en fait, on en revient toujours à la cour d'école, et là, ce qui s'est passé avec la Ligue de LOL, ça a été un peu rejouer la cour d'école, avec des gens qui se sentaient pas cool s'ils dénonçaient leurs collègues. Certains ont eu ce genre de réflexion. Je dirais que c'est une période aujourd'hui, puisque c'est une période de crise, donc de transition, où on a les deux discours qui s'affrontent dans les cours d'école. Moi, j'ai un peu étudié ce sujet. Dans les cours d'école, je vous dis, vous avez à la fois le respect de l'identité sexuelle de l'autre, sexuée parfois même... anticipant sur ce que, enfin, en allant plus loin que ce que les profs pourraient, ce à quoi les profs pourraient s'attendre. Et puis, à côté de ça, un développement de la pornographie, de l'insulte, de groupe, c'est le backlash. C'est le retour de bâton qui se joue en même temps que ce processus. Et le jeu dans tout ça, je crois, c'est effectivement au-delà des aspects intellectuels, de la féminisation de la langue qui est nécessaire, de toutes ces choses-là, de la parité, c'est la transformation du regard. Et comment transformer le regard dès la cour d'école ? Eh bien, c'est pas si facile. C'est l'empathie. C'est apprendre à se mettre à la place de l'autre. L'abécédaire de l'égalité qui avait été tenté de mettre en place.
Comme vous y allez.
Ça a fait scandale. Non, mais ça a fait scandale immédiatement parce qu'on disait les petites filles vont se déguiser en petits garçons et les petits garçons vont se déguiser en petites filles. Autrement dit, ça voulait dire que quelque part, il y avait l'inconscient viriliste de la population qui disait les petits garçons vont devenir des tapettes. Ce que disait votre invité, c'est-à-dire même les hommes, on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment des hommes, pas complètement masculins, pas complètement des hommes, eh bien ils subissent cette pression. Et on l'a vu dans ce débat national. Est-ce que les Français aujourd'hui sont prêts à réellement changer au-delà des aspects théoriques, d'égalité théorique et toutes ces choses-là? Moi, j'en suis pas si sûr. Parce que justement, ce que manifeste cet événement de la Ligue de LOL, c'est que les gens les plus progressistes, ils sont pas indemnes par rapport à, ils sont pas du tout indemnes par rapport à ça. Donc il y a une vraie lutte, mais c'est une lutte d'imaginaire, c'est une lutte dans les fantasmes même qui se construisent dès l'école, je crois. Parce que l'effet collatéral premier de la situation, de ce qui s'est passé avec la Ligue de LOL, c'était que ces femmes, avant d'arriver à des choses encore plus graves, mais je trouve que c'est intéressant de s'intéresser au premier sentiment. Le premier sentiment, ce que j'ai vu dans leur toute une série de réactions, c'est qu'elles se sentent en perte de confiance. Elles ont le sentiment de ne plus avoir confiance en elles, donc d'être contraintes de revenir à l'image de la féminité qui est féminine parce qu'elle est passive, parce qu'elle n'a pas confiance en elle, et donc c'est charmant. Donc ne plus avoir confiance, ne plus oser prendre la parole, ne plus oser dire un certain nombre de choses. Donc je crois que vraiment il y a un rôle fondamental de l'école.
Laure Salmona, cette question sur l'application de France Inter, vous y avez partiellement répondu. Je trouve ça intéressant que Nicolas le reformule. Ne serait-il pas utile de distinguer l'effet et l'intention de ces tweets ? On parle de système de soumission, c'est sans doute l'effet des messages, mais est-ce l'intention ? C'est intéressant de poser cette question, c'est intéressant de la poser quand on est Nicolas, quand on est un homme aussi.
Alors, ayant vraiment lu les témoignages toute la journée d'hier, ayant vu vraiment ce qui avait été fait, je pense que l'intention était clairement de créer un climat menaçant pour ces personnes. Ces personnes souvent n'ont pas pu travailler ensuite parce que les gens n'acceptaient pas. Enfin, toutes les personnes appartenant à la Ligue du LOL qui tenaient un peu, qui avaient des places intéressantes dans le milieu, faisaient en sorte qu'elles ne puissent pas travailler. Il y a eu des photomontages pornographiques très graves. Il y a eu des canulars téléphoniques. Il y a eu des intimidations en présentiel. Enfin, il y a eu des discours de haine antisémites, racistes, des apologies du viol. Enfin, c'était vraiment très intimidant, très menaçant. Et je pense que l'intentionnalité, elle était réelle.
Eh bien, Vincent, pour continuer sur cette veine-là. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
On vous écoute, Vincent, allez-y.
En fait, moi, je voulais apporter un petit bémol à ce que j'entends depuis le début, parce que je trouve tout le monde un peu véhément et virulent là contre ces jeunes. J'ai entendu dire qu'à 20 ans, on était adultes. Moi, je trouve qu'à 20 ans, on est encore un peu inconscient par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Je crois qu'on peut reconnaître, enfin, on peut admettre que les gens puissent faire des bêtises, puissent mal se comporter, même à des moments, sans forcément les condamner complètement. Je trouve aussi qu'on juge avec les yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé à l'époque. Twitter n'était pas aussi important qu'aujourd'hui, c'était plus confidentiel. Donc voilà, on a tendance à se lâcher davantage quand on sait qu'on n'est pas écouté autant qu'aujourd'hui. Enfin voilà, je trouve ça un peu violent, et je trouve, après on élabore des théories, on dit que c'est effectivement que c'était cette domination masculine qui s'exprimait peut-être, mais la question aussi n'était pas aussi prégnante à l'époque. Ces questions-là n'étaient pas sur la table comme elles le sont aujourd'hui.
Donc, enfin, on est quand même pardon Vincent, on est en 2009-2010, hein, on n'est pas en 1950 non plus. Enfin,
il y a très peu de temps. Mais regardez la libération de la parole féminine concernant les agressions sexuelles, qui sont des sujets autrement plus graves. Elle est toute récente aussi. Elle a quoi, 2 ans, 3 ans. Avant ça, c'est vrai qu'il y avait toutes les filles qui pouvaient être agressées avaient une réticence à porter sur la place publique ces questions.
En fait, la parole libérale a 1 an seulement, Vincent, au fond.
Non, je dis pas ça.
Parce que c'est Weinstein.
Mais reconnaissez que ça se libère de plus en plus, et donc ils n'avaient pas forcément conscience aussi qui perpétuait cette image, voilà, de la domination masculine. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on élabore des théories, là vous dites domination masculine, mais parmi les non-concites, j'ai pas l'impression que ce soit ceux qui dégagent aussi le plus de virilité qu'on met en cause. Donc bon, je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour moi, ça part surtout des blagues de gamins, parce qu'à 20 ans, on est encore gamin. Et voilà, il faut peut-être pas faire des grandes théories
Mais alors,
je sais pas si je me suis bien fait comprendre.
Oui, si, vous vous êtes bien fait comprendre, Vincent, et vous le dites comme vous le sentez, vous avez bien raison, on est vraiment là pour ça. Après, dans ces moments-là, ce qui me gêne toujours un peu, si je puis me permettre, c'est que il y a quand même quelqu'un en face, quoi. Qui reçoit.
Ah,
le problème, pas tellement le l'audience de Twitter à l'époque, mais c'est la personne qui reçoit, qui, pour le coup, le vit particulièrement mal.
Mais j'ai dit au début qu'on a le droit aussi de considérer que les gens puissent faire des bêtises, puissent mal se comporter. Et puis après, voilà, s'ils le reconnaissent, s'ils s'excusent, voilà, on passe à autre chose. Mais de là à venir expliquer que c'est les hommes qui se comportent mal, bon. Je sais pas, je suis un peu dubitatif.
Ça veut dire que le fait qu'il y ait des gens mis à pied, par exemple, des choses comme ça en ce moment, ça vous choque, vous, Vincent, aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une cavalcade, effectivement, de mise à pied.
J'ai l'émotion, pourquoi réagir de suite? Après, je sais pas, je connais pas bien les détails, ce qu'ils ont fait, pas fait, mais bon, ça regarde après l'entreprise, je vais pas rentrer là-dedans.
Merci, Vincent, en tout cas, merci pour votre témoignage. Raphaël Yogier, pour réagir.
Oui, justement, le fait que ce soit, imaginons même que ce soit des blagues de potache. Mais c'est parce que ce sont des blagues de potache que c'est aussi important. Pierre Bourdieu avait l'habitude de dire que la domination masculine, c'est ce qui était incorporé et donc qui n'est pas réfléchi, qui passe encore plus. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le fait qu'il le faisait même pas de façon anonyme, parce que ça allait de soi, en quelque sorte. Et la parole, c'est vrai qu'elle s'est libérée depuis peu de temps, au fond. Elle s'est libérée depuis peu de temps sur le cœur du problème, c'est-à-dire le fantasme masculin, le regard que les hommes sur le corps des femmes. Parce que du point de vue de l'égalité économique, ça fait un moment qu'on en parle. Du point de vue de l'égalité en droit, ça fait un moment. Aujourd'hui, c'est le cœur. Et ça fait seulement 1 an. Et on voit bien que la question de la blague, la question de « on est un enfant », etc., sont des justifications qui ne tiennent pas. Parce que c'est comme ça que la domination commence, par ce qui est incorporé.
Laure Salmona, j'imagine que vous êtes d'accord avec ça, évidemment.
Alors, j'aurais tendance à dire que ça n'est pas la parole des femmes qui s'est libérée. Les femmes, elles parlent depuis très longtemps. C'est l'écoute de ces problèmes qui s'est libérée peu à peu.
Et puis c'est la judiciarisation qui change aussi des choses après tout. C'est pour ça qu'on en est là, non?
Aussi. Et c'est aussi grâce à Internet. C'est pour ça que c'est très important de se battre pour que les femmes et les groupes minorés aient la parole aussi sur Internet, parce que c'est là qu'elles peuvent faire porter leur voix.
Voilà, donc on peut être accusé sur Internet faussement et harcelé, mais aussi faire porter sa voix. C'est bien le grand paradoxe aussi de cette merveilleuse chose. Merci beaucoup, merci à tous et merci pour vos nombreux appels. Comme d'habitude, portez-vous bien.